Radio Okapi.
Le journal de Jocelyne Moussa Oponde.
Le président de la République demande à son gouvernement de prendre en toute urgence des mesures concertées pour endiguer la hausse des prix qui affecte le pouvoir d'achat des nombreuses familles. C'était au cours du Conseil des ministres tenu hier vendredi. Pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, nous avons besoin d'une solution politique. Déclaration hier à Kachoucha, au Sud-Kivu, de l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC. C'était lors de l'inauguration d'un projet de textile financé par son pays. L'invité de cette édition, c'est Prince Muganza, PCA de la coopérative agricole Eden. Il nous parlera de la série de formations de 3 mois organisée au profit des éleveurs et agriculteurs de Kindu au Maniema. Bonsoir à tous. La hausse de prix de produits de première nécessité en RDC a fait l'objet de la communication du chef de l'État au cours du Conseil des ministres tenu hier vendredi. Le président de la République demande à son gouvernement de prendre des mesures concertées pour endiguer cette hausse de prix qui affecte le pouvoir d'achat de nombreuses familles. C'est en toute urgence que ces mesures doivent être prises face à la gravité de la situation. Le point avec Askenzik Biateur.
Le peuple congolais veut du concret. C'est en tout cas l'empressement du chef de l'État auprès de membres du gouvernement, tel que rapporté par Patrick Muyaya, ministre de la Communication. Déjà à la 5e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État avait mis l'accent sur la conjoncture économique difficile actuelle au pays, ce qui mérite une attention particulière du gouvernement. À la 7e réunion du Conseil des ministres du vendredi, le président de la République y est revenu avec insistance. C'est pour cela que face à la hausse des prix sur le marché, Félix Tshisekedi veut que les services des inspecteurs économiques soient redynamisés pour identifier et traquer les délinquants économiques qui manipulent les prix des denrées alimentaires. Un travail que devra faire avec fermeté le vice-premier ministre, ministre de l'économie. À vrai dire, l'entendement du président de la République est de voir baisser par exemple le prix du pain qui a grimpé à Kinshasa. D'après le compte rendu du Conseil des ministres, la première ministre a fait savoir que la préoccupation du chef de l'État a fait l'objet de concertations au cours de la réunion de conjoncture économique où des mesures adéquates seront prises.
733 millions de personnes environ ont souffert de la faim en 2023, soit une personne sur 11 à l'échelle mondiale et une sur 5 en Afrique. C'est ce que révèle le dernier rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde publié par 5 organismes spécialisés du système des Nations Unies. Si les tendances actuelles se confirment, quelques 582 millions de personnes seront sous-alimentées de manière chronique en 2030, parmi lesquelles la moitié vivront en Afrique, avertissent le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, le Fonds international de développement agricole FIDA, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, l'Organisation mondiale de la santé OMS et le Programme alimentaire mondial PAM. Les principaux facteurs que sont les conflits, les changements climatiques et les fléchissements économiques deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. Alain Irung nous en dit plus.
Les tendances diffèrent considérablement selon les régions. La proportion de la population souffrant de la faim continue d'augmenter en Afrique, se maintient en Asie, même si la situation reste particulièrement difficile, l'Afrique comptant plus de la moitié des personnes qui souffrent de la faim dans le monde et diminue légèrement en Amérique latine. De 2022 à 2023, la faim a empiré en Asie de l'Ouest, dans les Caraïbes et dans la plupart des sous-régions de l'Afrique. Les difficultés d'accès économique à une alimentation saine continuent également de poser un problème majeur qui touche plus d'un tiers de la population mondiale. À partir des nouvelles données disponibles sur les prix des produits alimentaires et grâce aux améliorations méthodologiques qui ont été apportées, les auteurs du rapport constatent que plus de 2,8 milliards de personnes n'ont pas eu les moyens de s'alimenter sainement en 2022. Cette disparité est la plus marquée dans les pays à faible revenu où 71,5% de la population ne peut pas accéder économiquement à un régime alimentaire sain contre 6,3% dans les pays à revenus élevés. Il est à noter que cette proportion est passée sous les niveaux d'avant la pandémie en Asie, ainsi qu'en Amérique du Nord et en Europe, mais qu'elle a considérablement augmenté en Afrique.
Définir l'indice national de vulnérabilité sociale en RDC, tel est l'objet de la réflexion qui réunit à partir de ce samedi à Kinshasa et durant 3 jours les experts de plusieurs structures. Il s'agit du Fonds national de promotion et de services sociaux, les délégués des ministères de la Santé publique et des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, ainsi que des représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans cet atelier de renforcement des capacités, les participants vont définir la vulnérabilité et ses indicateurs. Il est aussi question de fixer le critérium de ciblage de bénéficiaires du relèvement social et leur accès aux services sociaux de base, tels que la couverture santé universelle, l'éducation, le logement, la nutrition, l'eau et l'électricité. On écoute à ces sujets la directrice générale du Fonds national de promotion de services sociaux, Alice Mirimo-Kabeti, au micro de Jean-Marc Matouaki.
Cet outil que vous avez l'honneur et je peux dire le privilège d'être les constructeurs, parce que c'est vous ici qui allez construire cet outil qui va servir pour qu'enfin notre pays décolle, parce que la majorité de nos compatriotes sont des vulnérables. Et donc grâce à vous aujourd'hui, cette majorité peut espérer que la pyramide sera bientôt renversée, parce qu'elle est dans un sens opposé. Plusieurs souffrent, plusieurs ne peuvent rien faire, plusieurs ne peuvent pas contribuer à leur bien-être parce qu'ils sont dans une situation de précarité extrême. Mais il faut qu'il y ait un outil qui permet au gouvernement de donner, de mettre en place ou de mettre en pratique des politiques sociales qui vont aller directement vers les changements de nos vies. Et non seulement des politiques qui seront présentées et les vies des gens continuent à être ainsi. Et donc, sachez-le aujourd'hui que grâce à votre participation, vous serez en train de sortir ce peuple de ce gouffre. Et le chef de l'État nous a tous fait confiance, c'est pourquoi nous sommes assis là. Et donc, méritons cette confiance-là.
Notez que les résultats de ce travail sur l'indice national de vulnérabilité sociale seront testés d'abord à Kinshasa, ensuite dans 2 provinces pilotes, notamment la province du Haut-Katanga et la province du Lualaba, avant d'étendre l'expérimentation ailleurs. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, annonce l'arrestation de l'homme d'affaires et ancien dirigeant sportif congolais Mboyo Ilombe alias Pelemongo. Dans un communiqué publié hier vendredi, Constant Mutamba précise que l'incriminé est accusé notamment de tentatives de corruption et détournement des ressources financières de la société Onatra SA. Pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, nous avons besoin d'une solution politique. C'est ce que pense Ingo Herbert, ambassadeur de l'Allemagne en RDC. Il a dit hier vendredi à Kachoucha, territoire de Kabaré au sud Kivu, lors de l'inauguration d'un projet de textile financé par l'Allemagne. Pour lui, il y a déjà une base pour le retour à la paix et la cohésion, mais en dépit des efforts fournis par les populations, il faudrait que les dirigeants travaillent ensemble avec les pays de la région pour une solution politique. Il est dit au micro de Rachel Kisembangu.
La violence, une guerre, ce n'est pas une solution parce que c'est mon impression que les gens d'ici, mais aussi de Nord Kivu, Ituri, ils ne veulent que la paix. Et c'est à la politique, on est prêt de soutenir les initiatives pour la paix. La présence de l'armée rwandaise, c'est une violation du droit international public, de la Charte des Nations Unies. Mais pour trouver une solution, c'est au gouvernement du Congo de travailler avec le soutien de la région, de l'Afrique, aussi de la communauté internationale. Quand je suis dans la région, aussi comme à Bukavu, je suis heureux de voir aussi à Goma que, par exemple, les frontières sont ouvertes. Il y a tant d'échanges. Ça veut dire qu'il y a des gens des deux côtés qui travaillent ensemble. Et peut-être ça, c'est aussi une base. Mais à la fin, comme je dis, pour vraiment terminer ce conflit, on a besoin d'une solution politique.
Au Nord Kivu, dans la ville de Goma, les quartiers de la commune de Karisimbi sont en proie à des actes de banditisme depuis près de 4 mois maintenant. La jeunesse de Karisimbi rapporte une dizaine de cas de cambriolage par des individus munis de fusils et d'armes blanches. Dans la nuit d'hier vendredi à ce samedi, 4 maisons dépouillées de biens de valeur au quartier Ndosho et environ 6 intrusions, dont les domiciles de particuliers au quartier Mugunga. Dans la foulée, des personnes ont été blessées. Cette structure de la jeunesse suggère la réorganisation des sous-commissariats de la police pour s'adapter au mode opératoire des criminels qui sévissent à travers les quartiers. On écoute Claude Rougaud, président de la jeunesse de la commune de Karisimbi, dans ses propos recueillis par Chris Mukand.
Dans les quartiers Mugunga et Ndosho, c'était aux environs de 22h, 23h jusqu'à 2h du matin. À Mugunga, ils ont cambriolé plus de 4 maisons. À Ndosho, ils ont cambriolé plus de 6 maisons et l'un de nos citoyens a été fusillé. Il reçoit les soins à l'hôpital CBK Ndosho et l'autre a été blessé par machette. Comment ils sont en train de mener l'opération de 3 à 4 heures de temps et pourtant il y a les services qui sont censés sécuriser les paisibles citoyens et leurs biens. Surtout Ndosho et Mugunga sont déjà délaissés. Imaginez-vous, 4 mois, tous les jours, crépitement de balles, cambriolage, fusillade. Nous, on est en train d'exiger la délocalisation de l'état-major de la police Karisimbi 1 vers CCLK et la délocalisation de l'état-major de la police Karisimbi 2 vers Majengo. Comment ils peuvent rester à la commune et pourtant, dans des avenirs, les paisibles citoyens souffrent. Nous avons besoin de la sécurité, rien que la sécurité.
Dans la province de Lomami, le directeur de l'école primaire Yamukukile, dans la localité de Tchofa, territoire de Lubao, s'insurge contre l'arrêt des travaux de construction de son école dans le cadre du programme de développement local de 45 territoires. Jean Kalombo affirme que tous les bâtiments de son école ont même été démolis par l'entreprise qui a gagné le marché auprès du bureau central de coordination Beseco pour la construction d'une école moderne à Tchofa Centre. Suite à cette situation, plus de 500 élèves de cette école ont fini les enseignements dans des conditions déplorables. Des explications avec Esther Dalafina.
L'école primaire Yamukukile de Tchofa est une institution scolaire non conventionnée. D'après son directeur, cette institution a été ciblée pour être construite et modernisée dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Une fondation a même été érigée par l'entreprise qui a gagné le marché de construction des écoles à Tchofa. La construction a été suspendue au mois de décembre dernier. D'après le directeur de cette école, les élèves ont étudié en dessous des arbres et ont par la suite fini les enseignements dans une autre école tout en optant d'étudier les après-midi. Jean Kalombo redoute que cette situation ne reprenne l'année prochaine. Il demande au Beseco de reconstruire les bâtiments démolis.
Nous avons étudié aux après-midi avec les enfants et surtout dans les milieux où nous vivons. Peut-être que les autres partent affamés. L'année scolaire 2024-2025, est-ce que nous allons encore continuer dans le même rythme?
Contacté, le chef d'antenne de Beseco Lomami dit n'avoir pas été informé de cette situation. Il prévoit de mener les enquêtes auprès de l'entreprise qui a gagné le marché pour la construction des infrastructures dans cette contrée avant de se prononcer sur cette situation. Esther Dalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, pour assurer une meilleure gestion des déchets, le maire appelle la population à pouvoir acheminer ses ordures dans les décharges de transit afin de permettre à la mairie de les évacuer moyennant 1000 francs congolais par ménage le mois. On écoute le maire de Kindu, Augustin Moulamba Atibou, au micro de Florence Kizalunga.
Les immondices doivent être bien gérés parce que si ça pollue la nature, ça a des conséquences sur notre santé. Et la première victime, c'est cette même population qui est productrice de ces déchets ou de ces ordures. Et voilà pourquoi, dans notre politique, il est prévu que la gestion des déchets commence par les ménages. Chaque ménage doit savoir dans quel coin, quand il a balayé sa cour, quand il a préparé, où est-ce qu'il faut mettre provisoirement ces déchets. Et dès là, il faudra aller les déposer dans ce que nous appelons les décharges de transit. Et c'est à ce niveau-là que la mairie va mobiliser les véhicules pour aller ramasser et jeter au loin. La population doit savoir que ce n'est pas une activité qui est gratuite parce qu'il y a un principe qui dit pollueur-payeur. c'est vous-même qui produisez les déchets qui devez payer. C'est-à-dire, vous donnez à la mairie les moyens de pouvoir ramasser ces déchets-là et les jeter hors de vous. Et si chaque ménage peut nous donner les 1000 francs-là, ça pourra nous aider à avoir un peu de moyens, même s'il faudra suppléer pour nous permettre de ramasser régulièrement ces déchets.
Le judoka Arnold Kisoka, premier athlète congolais à entrer en lice aux Jeux Olympiques de Paris ce samedi dans la matinée, a été éliminé de la compétition. Il a perdu devant l'Israélien Yam Wolzak en éliminatoire des 16e de finale dans la catégorie de moins de 60 kilos. Il exprime sa déception au micro de Michel Tobo d'Actualité CD depuis Paris.
Bon, il s'agit juste au sol.
Mon adversaire m'a eu juste par la prise au sol. C'est juste cela. C'est pourquoi je demande à tous les clubs de notre pays de prendre le temps de travailler la prise au sol. Surtout aux judokas qui sont encore en train de monter progressivement. Par semaine, nous pouvons prendre même 2 jours pour travailler au sol. Ça peut être mercredi et jeudi où l'on travaille la prise des niwaza. Comment retourner son adversaire ainsi de suite. Cela va beaucoup nous aider dans les prochaines compétitions. Mon adversaire avait des failles que j'avais perçues après l'avoir étudié. Je lui ai mis de la pression et c'est ainsi que vous avez vu que j'ai pu marquer un point. Debout, il ne parvenait pas à combattre. Mais lorsqu'il a réussi à me mettre à terre, c'est là que tout malheureusement a basculé pour moi. Je pensais qu'il allait me retourner, mais j'ai été surpris. Il m'a eu au sol. C'est ça que je dois travailler, puisque même à la francophonie, j'avais perdu pour la même raison. Courage à moi-même.
L'invité. Notre invité, c'est le président du conseil d'administration de la coopérative agro-pastorale Eden. Prince Muganza nous parle de cette série de formations de 3 mois organisée au profit des éleveurs et agriculteurs de Kindu au Maniema. Ces formations portent sur l'élevage, l'agriculture ainsi que l'entrepreneuriat. L'invité de la rédaction s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Prince Muganza, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
C'est quoi l'objectif de cette formation?
La formation, c'est toujours capaciter les gens là, les renforcer la capacité sur la production, surtout qui est intensive maintenant, qui tourne de la production traditionnelle vers la production intensive. C'est-à-dire, il y a 3 filières, il y a l'élevage, il y a l'agriculture, il y a aussi la pisciculture. Pour l'élevage, on apprend les gens sur comment fabriquer les couveuses pour produire les poussins, comment aussi fabriquer les aliments des poules et d'autres bétails. Comment assurer les soins vétérinaires des volailles et d'autres bétails, mais aussi la technique de fabrication des médicaments à base de plantes. Et pour l'agriculture, nous sommes dans la production maraîchère, la production des céréales aussi, vivrières et la chaîne de valeur aussi des cacao. Nous avons aussi la formation sur la pisciculture. Ici, on apprend d'abord la pisciculture intensive, c'est-à-dire comment faire la pisciculture hors sol, comment concevoir des bacs hors sol. On y met des poissons et dans des bâches ou bien dans des tanks et dans la parcelle même sans pour autant se déplacer pour aller les faire en brousse. Nous avons aussi la formation sur les cages flottantes. Comment les gens peuvent élever des poissons dans des cages flottantes sur les rivières ou bien sur le fleuve et ça produit beaucoup. Après toutes les formations techniques là, l'apprenant sera appelé à faire aussi l'entrepreneuriat et l'éducation financière.
Vous êtes parti de quel constat pour arriver à organiser ces séries de formations en faveur des agriculteurs?
On a constaté que à Kindu, tout le monde devait faire l'agriculture ou bien l'élevage, mais les gens étaient abandonnés. Il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas aussi l'encadrement, post-formation si je peux le dire. Parce que tout le monde tentait d'importer les poussées de Goma, de Lumbashi, mais arrivé ici, les gens ne savent pas comment nourrir ces poussées, comment les soigner, comment même vacciner, ils n'ont pas ces notions-là. Mais la passion est là, tout le monde veut avoir vraiment cette activité dans sa parcelle. Vraiment, c'est la vie, la vocation agro-pastorale. Et là, nous sommes dit, le premier besoin d'abord, c'est la formation. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e promotion et nos auditoires, c'est plus de 100 personnes de catégories différentes là.
Alors, pourquoi limiter votre série de formations seulement dans la ville de Kindu, étant donné que vous visez la relance de la province tout entière?
D'accord, nous avons commencé d'abord par Kindu. Et comme je vous dis, nous sommes un incubateur d'entreprise. C'est ici à Kindu, nous voulons d'abord ouvrir les grands centres. Bon, on est en train de penser comment même créer une internats. Quelqu'un peut venir de loin et venir passer dans notre centre 2 mois, 3 mois. Il rentre déjà, il est satisfait. Ouais, il y a les contraintes aussi liées au transport. Quitter Kindu pour Pugna avec tout le matériel, par exemple, il faut passer d'abord par Goma, puis chiter par Kindu. Sinon, si avec l'état de nos routes, si la moto, c'est quasiment impossible. Nous faisons la formation qui est purement pratique. Nous avons nos ateliers de pratique professionnelle ici que vous venez de visiter, avec des matériaux aussi. Il y a des matériaux qui sont très lourds à déplacer. Et ça ne permet pas vraiment de nous déployer, pour le moment surtout, dans tous les territoires de la province. Si quelqu'un vient du territoire, on facilite toutes les conditions pour qu'il ait bénéficié aussi de nos formations-là. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'envisager, avec l'appui, bien sûr, éventuel de ceux qui peuvent nous soutenir, de voir comment ouvrir un internat, parce que c'est déjà un besoin qui se fait ressentir. L'internat pour accueillir les gens qui viennent des territoires lointains aussi, peut faire d'une manière accélérée, même 1 mois, il est déjà formé, il est déjà outillé, il va rentrer aussi, il va faire les exploits dans son territoire, peut devenir même formateur d'autres personnes là que nous n'avons pas pu atteindre.
Quelles sont les conditions pour arriver à bénéficier des formations au sein de la coopérative agricole Eden?
Jusque là, on n'a pas de conditions. La formation, elle est gratuite, la formation, si on est membre. Et je vais vous rappeler aussi que pour l'adhésion est jusque là gratuite aussi. C'est juste une fiche à remplir et vous êtes déjà membre. Pour devenir membre chez nous, c'est de 7 ans à 77 ans. Donc tout le monde peut faire l'élevage, l'agriculture.
Est-ce que vous avez l'appui des autorités provinciales?
Juste l'appui moral et aussi nous avons cet allègement des taxes. Aussi, vous voyez, nous avons du mal aussi à fonctionner. Notre parcelle que nous occupons ici devient trop petite. On a demandé à l'État de nous donner la terre ou bien même le lieu de travail.
Monsieur Prince Muganza, merci.
Merci beaucoup, Madame Kiza.
Fin de ce journal. Jean-Noël Mokondo, la mise en onde, Alain Irung l'a coordonné. Merci de l'avoir suivi.